Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour rendre hommage à la diplomate de Cuba, je vais également faire référence au poulet, du riz au poulet, puisque c'était l'expression employée tout à l'heure. Ici, j'aimerais faire référence à la résolution 26.9. L'une de ces dispositions renvoie à son interprétation concernant la différence entre le préambule et le dispositif de la résolution. Et j'aimerais lire le dispositif paragraphe 1 de cette résolution, c'est-à-dire établir un groupe de travail intergouvernemental à composition ouverte sur les entreprises transnationales et autres entreprises sur la question des droits de l'homme, dont le mandat serait d'élaborer un instrument juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l'homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises. Je pense donc que le premier paragraphe du dispositif de cette résolution indique très clairement en quoi consiste le mandat de ce groupe de travail. Peut-être pouvons-nous avoir des interprétations différentes sur le type d'entreprise? Et si c'était le cas, il nous faudrait créer un autre groupe de travail et le Conseil des droits de l'homme devrait adopter une autre résolution pour un mandat différent. Notre posture est très claire, le mandat de ce groupe-ci est bien d'élaborer un instrument juridiquement contraignant sur les entreprises transnationales et autres entreprises et non pas un autre type d'instrument. Voilà l'argument principal pour ce qui est de défendre notre proposition s'agissant de l'article 3. D'autre part, nous aimerions faire un commentaire d'ordre général. Nous avons essayé de mettre en juxtaposition les arguments politiques et juridiques. Je pense qu'aujourd'hui, il est impossible de séparer les deux. Toute norme juridique se fait l'écho de considérations politiques et vice-versa. Il est impossible, d'après nous, de faire la distinction entre ces deux éléments. Pour ce qui est de l'article 3, après avoir écouté avec la plus grande attention la proposition du Mexique, hein, qui nous paraît bien étayée et qui présente des éléments intéressants, nous ne voyons qu'un problème pour ce qui est de faire référence aux activités d'entreprise, mais celles-ci doivent être bien définies pour savoir qui est le sujet de ces activités commerciales. C'est pour cela qu'au 3.1, nous proposons d'inclure toutes les activités d'entreprise à caractère transnational et autres activités commerciales. Et je pense que si nous incluons toutes ces activités commerciales dans ces cas-là, nous pourrions prendre en considération la préoccupation du Mexique comme celle de Panama pour ce qui est de l'inclusion des entreprises qui ont un caractère national. Car cette formule ne serait pas exclusive, mais nous permettrait plutôt de nous concentrer sur les activités à caractère transnational, puisque c'est bien le mandat de ce groupe de travail. Nous aimerions également dire que il ne subsiste aucun doute sur le fait que peut y avoir des différences entre les violations commises par les entreprises à caractère national et les entreprises à caractère transnational, vous n'êtes pas sans le savoir. Les entreprises à caractère transnational ont davantage de pouvoir économique, la plupart du temps exploitent davantage les ressources naturelles, violent davantage les droits de l'homme dans la chaîne de valeur comme dans la chaîne de production, ou des entreprises en réseau qui peuvent avoir le siège en Amérique et avoir des usines ailleurs. Et je pense que l'extorsion, la corruption menée par ces entreprises indique très clairement quel est le pouvoir économique de ces entreprises, des entreprises de cette nature, pour ce qui est de soumettre des populations tout entières. Dans le cas de Chevron en Équateur, les choses ont été très claires pour perpétrer ces violations pendant des années, sans reddition de comptes ni réparation pour bon nombre des victimes. C'est pour cela que nous pensons que c'est bien la logique derrière laquelle le Conseil des droits de l'homme avait décidé de traiter ces entreprises transnationales tout d'abord. S'agissant de l'article 3, paragraphe 2, nous ne voyons aucun inconvénient à accepter la proposition du Panama. Pour ce qui est de la référence à la première ligne, ici, il ne faudrait pas faire référence à des obligations, mais bien des responsabilités, comme nous l'avions dit à plusieurs reprises. Dans ce paragraphe, à la première ligne, après obligation, nous aimerions inclure transnational. Les entreprises commerciales transnationales. Les obligations incombant aux entreprises transnationales commerciales. C'était au tout début du paragraphe. Et s'agissant du 3, comme nous l'avions dit également au préambule, nous sommes favorables au maintien du terme intergouvernementalement reconnu. Comme nous l'avions expliqué auparavant, pour que les droits de l'homme soient reconnus en tant que tel et avec un caractère universel, comme ceci figure dans différents instruments internationaux de plusieurs natures, car si l'on renvoie aux droits de l'homme de façon plus ouverte, on encourt le risque que chaque personne, chaque État se dote de sa propre interprétation quant à la nature des droits de l'homme et nous nous retrouverions dans une situation complètement anarchique. Pour que les droits de l'homme soient reconnus, ils doivent être consacrés et nous devons utiliser les documents internationaux de plusieurs natures.